sont la réunion et l'enregistrement. Je suis Darlene Thompson. Pardon, c'est Gisela Gruber qui prend la parole. Pour commencer la réunion, il faut que l'on dise que c'est l'Assemblée générale de la RALO. Il est mercredi 17 octobre, l'heure locale à Toronto est 9h20. Je vous souviens de dire vos noms lorsque vous allez parler pour la transcription, mais aussi pour les interprètes dans les cabines de français et espagnol. Alors, Darlene, tu as la parole. Merci. Merci, c'est Darlene Thompson qui parle. On commence la réunion maintenant et je passerai la parole à Garth. En fait, Darlene, le point qui suit est l'appel. Donc, on va passer l'appel. Je commence. Je suis Garth Brown, présidente de Naralo. Et je passe la parole autour de la table. On commencera par Annalisa. Je suis Annalisa de l'ISOC de la baie de San Francisco.
Communauté.
Louis Hull, ISOC Québec.
Louis, du chapitre ISOC Québec. Je suis Alan Skith, de PCMA, de Yukon. Carl Sherman, je représente Telecommunications Canada. Gisela Gruber, personnel d'ICANN. Heidi Ulrich, personnel d'ICANN. Darlene Thompson, secrétariat de Naralo. John Kerr, la fondation qui construit des fondations durables. Glenn McKnight, de la fondation pour les communautés durables. Alan Greenberg, membre affilié. Je représente les membres non affiliés. Je serai ancien membre d'ALAC et prochain membre d'ALAC aussi, et je représente les liaisons de la GNSO. Mary McArthur, je serai un membre non affilié dans très peu de temps. Je viens d'Infocom Canada, merci. Dana Perry, avec le programme d'accès pour la communauté. Randy Glass, Adlarge Amérique. Seth Rees, section de propriété intellectuelle. Gordon Shelcott, du secteur de Toronto pour les groupes des parties prenantes. Je suis Alan, je viens du chapitre ISOC de Colorado. Et Eduardo Diaz de la société Internet Puerto Rico. Merci, c'est Garth Brown qui reprend la parole. J'essaierai de parler moins et d'écouter davantage dans cette réunion. Je voudrais que la discussion soit productive. Et on a deux sujets, deux points qui ne sont pas spécifiquement mentionnés dans notre ordre du jour, mais que je voudrais que l'on traite. D'abord, nous avons la procédure de développement que Darlene va aussi discuter. Et puis, on a les procédures des membres non affiliés. C'est un point sur lequel Alan va nous aider. Avant de passer au sujet spécifique, je voudrais ouvrir la séance pour que si vous avez des recommandations, des questions, des préoccupations, ou n'importe quoi que vous voulez dire, vous puissiez le faire. Alan, vas-y. Alan Greenberg, mon sujet sera plus large parce que je parlerai des problèmes avec les règles de procédure. Bon, si c'est bien le cas, si vous n'avez pas d'autres sujets, on peut commencer avec toi, Alan Digarth. Alan prend la parole. Merci. Ce sera une réunion très courte, il me semble. Pour ce qui est des membres non affiliés, les règles sont aussi simples qu'on les imagine. On a trois exigences pour devenir membre non affilié. En premier lieu, il faut habiter au Canada ou aux États-Unis, ou en fait, une zone qui appartient à Naralo. Je pense que c'est juste les États-Unis et le Canada, mais peut-être que j'oublie d'autres juridictions. Les États-Unis sont une définition un peu large parce qu'on inclut le Puerto Rico et d'autres endroits tels que les îles Virgin et la Guyane, peut-être Guam. Donc, c'est la règle numéro 1. Et puis, il faut faire partie de la liste de public postage de Naralo. Si vous êtes désabonné, vous n'appartenez plus. Et en troisième lieu, il faut envoyer des emails aux équipes à large d'ALAC pour manifester votre intérêt, c'est tout. Donc ce n'est pas un processus complexe, c'est très simple, on est très peu de membres. Je pense que le mois prochain, on devrait considérer comment faire pour ajouter des gens, pour engager davantage de gens, parce qu'on est 5 en Amérique du Nord. Ah, et la quatrième règle, j'oublie, est que vous ne pouvez pas faire partie d'une ALS qui existe en Amérique du Nord, ni d'aucune autre ALS. Je ne savais pas que j'allais dire cela lorsque je suis arrivée, donc j'oublie peut-être des choses à dire, mais il est trop tôt. Alors, lorsqu'on a des votes formels ou que l'on veut atteindre un consensus, chaque ALS a un vote. Les membres non affiliés ont aussi un vote. Donc, les membres non affiliés pourraient être considérés une ALS virtuelle. Ce n'est pas une ALS parce qu'on ne passe pas par le processus d'approbation et de création des ALS, mais les membres élisent un représentant pour les représenter justement toutes les années. Les responsabilités sont de voter selon ce que les membres non affiliés veulent, s'il y avait un vote, bien sûr. C'est tout ce que ça implique. On devrait avoir une assemblée comme celle-ci et si on avait une assemblée générale, on ne serait pas représenté en tant qu'ALS, donc pour voyager et tout, ce serait différent. Mais ça n'a jamais été un problème jusqu'à présent. Je pense que ça pourrait l'être, bien sûr. Et voilà. Puis, on a vu des modifications aux règles de procédure que l'on a voulu faire. On travaille dessus. Et ces modifications cherche peut-être à régler des incohérences. Et on a diffusé ces modifications que l'on a proposées par email. Il y avait une qui était très intéressante. Et c'est que lorsqu'on a fait la dernière révision aux règles, on a vu qu'ils avaient ajouté une exigence pour que le représentant des partis non affiliés ne soit pas un employé ni une partie engagée par la partie engageante, c'est-à-dire par les bureaux d'enregistrement. On avait des gens qui avaient des intérêts personnels là-dessus, peut-être que l'on avait eu une dispute il y a quelques ans par rapport à la sélection d'un représentant pour le NOMCOM. Donc, ils avaient proposé cette exigence qui a été ajoutée. Cette exigence, bien sûr, est incluse pour le représentant des partis non affiliés, qui ne fait pas beaucoup, en fait. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas affilié qu'on ne peut pas avoir un secrétariat. On peut être dirigé par une partie contractée, mais l'un des membres ne peut pas être une partie contractée ou engagée. Et avant d'écrire et d'inclure cette règle, il fallait considérer si on voulait que cette règle soit universelle. Et on disait qu'en tant que président du secrétariat, on ne pouvait pas le faire. Et si on était représenté par les ALS, on ne pouvait pas être une partie engagée ou alors si on voulait être non affilié. Je pense que si on est intéressé à Naralo, à participer. Les sentiments de cette personne, son désir de participer ne devrait pas être affecté par qui paye son salaire à la fin du mois. Je pense qu'on aura assez de temps pour pouvoir résoudre quelque chose si l'on voit que c'est le cas. Mais j'ai des préférences, bien sûr, mais on devrait être cohérent. On ne peut pas avoir des règles différentes pour chaque personne. Et je cherche à avoir l'aide de quelqu'un. C'est Garth qui prend la parole. Oui, Alan et moi avons discuté cela hier et j'ai beaucoup réfléchi. Et on ne veut pas se limiter. On veut protéger notre modèle du bas vers le haut qui se centre sur la communauté. Mais c'est ainsi qu'on va maintenir l'intégrité, la mission et l'objectif. Si on se centre sur la communauté. En même temps, bien sûr, on veut inclure tout le monde. On veut considérer toutes les options. Et au moins de parler de partis, je voudrais parler d'autres questions. Disons qu'on a des règles pour les fonctionnaires ou les personnes qui ne sont pas engagées. Ce n'est pas un exemple spécifique parce qu'il ne fait pas partie de Naralo, mais si on parle de Deb, il est brillant, il travaille sur les réseaux sociaux. Et on pense peut-être que ce serait plus facile de l'engager pour qu'il travaille pour nous. Ce serait un problème s'il travaillait ailleurs. En général, ce qu'on veut dire par partie engagée, c'est bureau d'enregistrement, registre. Ce n'est pas des gens qui travaillent pour ICANN. Je pense que ce ne serait pas un problème. On a vu des cas où les représentants d'ALS avaient été engagés par ICANN pour travailler sur un projet particulier. Ça n'a jamais été un problème. Mais les règles pour les représentants des ALS disent qu'on ne peut pas être une partie engagée ou travailler pour une partie qui a été engagée. Je pense qu'on est un peu au-delà de notre portée. C'est une règle qui est unique pour l'Amérique du Nord, en fait. Et si vous voyez l'Asie-Pacifique, ils ont Edmund Chang qui dirige un registre et il a participé à Peralo et à Adlarge et il a fait des contributions très valables. Donc, dans certaines parties du monde et dans les parties du monde qui sont moins peuplées, les gens mettent plusieurs casquettes et même si on veut définir une classe spécifique de participants d'ICANN, parfois les gens ont des parties de leur vie différentes. Ils peuvent avoir plusieurs activités. Et je n'ai pas d'objection, mais il faut qu'on soit cohérent. Bien, on a Darlene et puis Seth, dit Garth. C'est Darlene Thompson. Je ne suis toujours pas d'accord. Je pense qu'on devrait prendre une décision. Et quand je vois qu'on a des parties ici qui sont engagées, ce ne devrait pas être simplement pour les membres affiliés ou les membres non affiliés. En fait, il me semble qu'on devrait avoir des limitations qui devraient être égalitaires pour les deux. Et je vois des gens qui font partie de notre groupe et qu'on aime bien. On aime bien de les avoir dans notre groupe. Ce sont des personnes qui contribuent beaucoup avec notre groupe. Est-ce qu'ils devraient avoir le droit de vote? C'est un peu difficile à dire, mais enfin, je ne vais plus rien dire parce que je pense que les partis engagés ne devraient pas faire partie de notre structure de vote. Mais de toute façon, ils devraient avoir une voix à Naralo. Garth, demande à Alan, tu vas répondre à Darlene. Bien, alors c'est Alan Greenberg qui prend la parole. Darlene, tu viens de parler de parties engagées. On parle de personnes qui peuvent être employées par des parties engagées et non pas spécifiquement la partie engagée, la personne engagée. Donc, c'est des personnes qui travaillent pour des bureaux d'enregistrement ou des registres. Je ne sais pas, je ne suis pas avocat et je ne voudrais pas dire quelque chose de définitif. Mais je pense qu'on n'aurait pas le droit légitime de dire que si Garth représente son ALS et s'il était employé par VeriSign, que son ALS ne peut pas le choisir comme représentant. C'est ça ce que les règles disent. Et il devrait pouvoir voter. Et le représentant des membres non affiliés est essentiellement la même catégorie. Il a été choisi par ses quasi-ALS. Et il agit de la part du groupe au nom du groupe. Garth? Je veux que Seth parle, mais n'oubliez pas ce que vous êtes en train de dire. Bien, alors, Joan. C'est Joan qui parle. Si l'on dit un membre avec droit de vote, ça ne veut pas dire qu'on représente l'organisation et pas notre patron. Si on travaille pour une personne qui appartient au directoire et qui représente une société, par exemple, serait-ce important à cet effet? Oui, dit Alan, c'est ce qui importe pour les membres non affiliés et pour les ALS. Les membres non affiliés ne constituent pas une ALS. Les représentants des ALS ont le même rôle, mais ils n'appartiennent pas au directoire d'une non-ALS, c'est-à-dire qu'ils sont élus par des gens qui n'appartiennent pas aux ALS. Darlene parle. Pour moi, il y a deux problèmes. Et c'est que si les ALS étaient des parties engagées, puisqu'on devrait avoir les mêmes règles pour les membres non affiliés, la règle d'ALAC, c'est Alan qui parle, sur qui peut être une ALS ne permettrait pas à VeriSign de créer une ALS. Faites-moi confiance. Bien, c'est Darlene qui parle, alors on devrait avoir les mêmes règles pour les ALS et pour les membres non affiliés. J'ai oublié ce que je voulais dire. John, vous voulez ajouter quelque chose? Bien, alors, je passe la parole à Seth et puis à Eduardo. Seth qui parle. J'ai une question par rapport à ce que Alan a dit tout à l'heure. Et c'est, est-ce qu'on aurait soutien pour voyager pour tous les représentants des partis non affiliés? C'est intéressant parce qu'avant, les RALO à large avaient des bénévoles. Et donc, la structure des non-affiliés leur donne la possibilité et plein d'autres possibilités intéressantes d'obtenir le soutien. Et puis, je voulais dire en même temps qu'on ne peut pas parler de partis engagés qui soient limités au bureau d'enregistrement et au registre parce qu'en fait, la définition de engagé est beaucoup plus large. Donc, je pense qu'on devrait le modifier parce que lorsqu'on lit les règles, ça voudrait dire qu'on inclut toutes les personnes avec un contrat, les fournisseurs Internet. Ce n'est pas seulement les bureaux d'enregistrement et les registres. Et puis, je voulais dire en même temps qu'on a beaucoup discuté les conflits d'intérêts dans nos politiques. Et les politiques qui ont trait, qui concernent les conflits d'intérêts. Par exemple, lorsque je me suis présentée comme volontaire pour un groupe de travail, c'était toujours pareil. Par exemple, j'ai été arbitre des UDRP. Et lorsqu'on considère ce genre de problème, on doit penser comment ça va correspondre aux politiques pour pouvoir résoudre les problèmes que ça pose. Alan, c'est Garth qui parle. Tu veux répondre à Seth? Oui, Alan Greenberg qui prend la parole par rapport aux parties engagées. Dans le le contexte d'ICANN, on parle de partie engagée et ça veut dire bureau d'enregistrement et registre. C'est simplement eux, mais c'est ce que l'on comprend par partie engagée dans le contexte d'ICANN. C'est un terme qui a été défini. Et puis par rapport aux politiques de conflit d'intérêts d'ICANN, en général, et je pense que c'est toujours le cas, on doit déclarer les conflits et puis c'est aux autres de juger si c'est important ou pas. Donc c'est pas nécessairement qu'on ne peut pas avoir des conflits. Presque tout le monde à ICANN, sauf peut-être la plupart des membres d'ALAC, a un conflit dans le sens le plus strict du terme. Donc, par exemple, si vous voyez qui sont les membres du directoire, ils ont toujours déclaré leur conflit. Et ça change le long des années parce qu'on a des considérations différentes. Et puis, je vais dire qu'à mon avis, il faut qu'on maintienne les règles qu'on a et qu'on ne devrait peut-être pas avoir des règles par rapport au fait que le secrétariat ou le directeur peuvent ou pas être des partis engagés. Ils vont être votés. Et donc, même si Gard travaille pour le bureau d'enregistrement le plus grand qu'il y ait, il est un expert par rapport à l'éthique. On pourrait bien lui offrir un poste pour bien administrer ce groupe. Mais ce n'est qu'un exemple, hein. Et alors, si à notre avis, Garth est toujours le meilleur président possible, on parle toujours en termes très négatifs par rapport au Naralo futur. Mais c'est nous qui prenons les décisions. La seule différence est que si vous avez un poste neuf le long du processus, pendant votre mandat, vous devez résigner. Renoncer. Et vous nous avez donné l'opportunité de dire si vous devriez renoncer ou pas. Et si vous avez choisi quelqu'un, si vous l'avez élu et que vous sentiez qu'il était approprié, il faut maintenir la décision. Et sinon, s'il n'avait pas les éthiques, eh bien, vous avez mal choisi. Garth, oui, il faut avoir deux considérations par rapport à ce contexte. En ce moment, on voit plein de compagnies qui sont contrôlées par une même société qui applique pour des chaînes GTL ou des accréditations de bureaux d'enregistrement. Et donc, pour la manipulation des règles, si on se sent à l'aise ou pas avec cette manipulation, c'est quelque chose qu'on connaît déjà et on devrait le reconnaître rapidement. Et puis, est-ce qu'un fonctionnaire peut être coopté pendant son mandat? Je pense que s'il est coopté, ça va être évident pour tout le monde. Il va pas être réélu. Et s'il n'a pas l'occasion de dire j'ai un poste additionnel, est-ce que je devrais renoncer ou pas? Je pense que ce sera mauvais pour lui. Oui, je pense qu'on peut lui demander, dit Alan, de renoncer s'il triche. Bien, donc nous avons Eduardo Hernandez, dit Garth.
I'm sorry, I...
Oui, je ne sais plus ce que j'allais dire. Je laisse mon temps de parole. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Randy a la parole. Randy, America at large. Donc, on est sur un sujet, je crois, qui est important et que nous devons l'explorer un petit peu plus avant. Et nous devrions avoir un processus officiel où nous clarifions ce point, selon moi. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être par l'intermédiaire des emails. Je crois que c'est important. Nous devons arriver à une décision. C'est important pour la communauté at large. Et certains points dont on parle, des points qui ont trait à l'éthique et à la morale. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste. Mais je me fais parfois l'avocat du diable. Et en général, les règles d'éthique comptent beaucoup moins dès qu'on est payé. Donc ce n'est pas vrai pour tout le monde. Quand est-ce que l'on va juger cela une fois qu'il y a eu des problèmes, une fois que des problèmes apparaissent? Je crois qu'il faut être prudent. Donc, et avoir ce type de débat comme nous avons aujourd'hui, les conflits d'intérêts doivent être indiqués, divulgués, mais il me semble également qu'il doit avoir des conditions. Je vais vous donner un exemple pour être plus clair. Mettons qu'un bureau d'enregistrement qui a introduit de nouveaux GTLD dit à tous ses employés d'être membre d'AtLarge non affilié. On ne peut pas le savoir obligatoirement, ils ne vont peut-être pas le divulguer, le dire, l'indiquer, vont peut-être mentir. Donc ils peuvent influencer un groupe et je ne dis pas que ça se fait, mais c'est un exemple que je vous donne. Sur cette note, j'aimerais dire que lorsque l'on parle d'argent, de morale et d'éthique, lorsqu'on a beaucoup d'argent en jeu, ben parfois, on fait des choses cachées, un petit peu plus dangereuses. Me semble-t-il, c'est ce que je voulais dire en termes généraux, il me semble que nous devons clarifier cela par l'intermédiaire de nos forums et également de documents écrits formels. Mais je voudrais passer à un autre point maintenant. Point de clarification, Alan. Les votes et les procédures. Je ne sais pas si ça a été clarifié, mais quel est le processus pour les membres non affiliés, vous avez parlé du vote. Quel type de processus gouverne cela? J'ai 150 membres non affiliés avec un vote. Comment est-ce que nous approchons cela? Eh bien, les règles nous disent que les membres non affiliés ne votent pas, mais avec une méthode transparente, vote en groupe, ne vote pas selon leur opinion personnelle, mais exprime leur opinion de groupe. Donc je crois qu'il n'y en a que 4 dans notre cas, donc je ne propose pas que l'on change cela, mais ça doit être transparent, donc les personnes doivent se mettre d'accord pour voter d'une seule voix, c'est le cas de le dire, pour exprimer l'opinion en groupe, pas une opinion personnelle. Donc, s'il y a beaucoup de registres, même si on essayait de mettre beaucoup de personnes membres non affiliés qui votaient, moi, je ne présente qu'un seul vote, donc ce n'est pas un problème. Donc, je ne sais pas, je ne crois pas que ça pose un grand problème. Vous n'êtes pas encore un registre. Vous voudriez, mais est-ce que nous allons vous garder en tant qu'ALS? Peut-être. Je ne sais pas quelles sont les règles pour les ALS. Je ne sais pas quels sont les règlements HALO. Selon moi, je dirais non, et je suis un participant actif à NARALO. Donc, avant, c'était très difficile de devenir un registre. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Pas totalement simple, mais à l'avenir, techniquement, tout le monde pourrait l'être. Donc, je crois qu'on n'aura plus beaucoup de monde si on exclut tous les registres. Oui, merci de l'avoir indiqué. C'est un point que vous avez soulevé, qui est intéressant. Ils peuvent devenir de bons membres. Moi, je ne suis pas pour parler de mon expérience personnelle, mais de la structure de ce que nous effectuons. Nous devons nous concentrer sur les utilisateurs de l'Internet au niveau local, à la base. Les personnes qui sont prêtes à devenir des ALS. On est là vraiment pour être plus proche des utilisateurs d'Internet. C'est notre modèle. pour notre registre. Donc il faut absolument suivre de près les nouveaux GTLD. Il y a des gens de Point Québec à la table qui sont là. Donc j'aimerais donner d'abord la parole à Eduardo. Oui, Eduardo. Oui, Annalisa, je crois que vous représentez l'ISOC San Francisco, oui. Mais si vous devez devenir un registre, vous allez avoir une autre partie prenante, un autre groupe de travail, je ne sais pas. Je parle au Naralo. Elle représente une ASOC. Non, c'est exact. Annalisa, je réponds. J'ai ma casquette ISOC aujourd'hui. ISOC, c'est un groupe de base des utilisateurs de l'Internet. Et l'ISOC, l'ALAC, point, Green, c'est un modèle. C'est, est-ce que point Green ou tout autre TLD, est-ce que nous sommes un registre? Est-ce que nous sommes un utilisateur at large? Il faut se poser la question. Ce qui m'intéresse, c'est que .green soit plus un groupe d'utilisateurs, selon moi, qui serait peut-être plus à même d'être à la LAC, at large. On va être un groupe qui va être un groupe d'utilisateurs de base de l'Internet. Donc c'est un débat qu'il faudra avoir. Oui, Alan, Gareth... Oui, lorsque j'ai mentionné Annalisa, ce n'était pas au nom de l'ISOC San Francisco que je m'exprimais. Mais est-ce que l'ISOC San Francisco peut sélectionner Annalisa comme représentante une fois qu'elle est employée par un registre Donc on ne veut pas de membres votants qui aient des opinions très marquées. Oui, mais nous sommes une association à but non lucratif et je crois que les nouveaux registres, je ne sais pas comment on va les appeler, ça va être nouveau, ça, avec ces nouvelles extensions, avec ces nouveaux GTLD. Non, j'y viens. On commence à se demander au niveau du règlement intérieur ce que l'on va effectuer au GNSO. Nous avons des nouveaux concepts, le bureau d'enregistrement va-t-il être considéré comme un registre et vice-versa, va faire partie du groupe des registres, est-ce qu'on va voter dans un seul groupe ou pas, donc il y a des conditions, je ne sais pas si c'est en rapport avec une clause du règlement intérieur, mais il faut qu'on fasse un peu de recherche dans nos textes pour voir les droits de vote. Mais mis à part les droits de vote, je ne crois pas qu'il devrait y avoir de problème. Oui, Alan soulève un point important. Je crois que c'est un problème important pour l'ICANN. Vous pouvez faire partie de différents groupes, mais il faut en effet spécifier et préciser dans le règlement intérieur comment se fait le vote. Oui, là, on vient d'ouvrir une boîte de Pandore assez intéressante. Soyons prudents. Je suis d'accord pour dire qu'on ne doit pas exclure .green s'ils veulent devenir LS. Et je pense que nous devons peut-être prendre en compte les registres qui vont devenir des ALS. C'est au cas par cas que nous devrions peut-être statuer. Évidemment, pour prendre l'exemple de .green, je crois que les représentants qui ont le vote, ce ne sera pas Annalisa, si elle représente San Francisco. Elle ne va pas voter deux fois. Mais est-ce que l'on doit exclure ces personnes? Je ne le pense pas. Nous devons être très prudents. Parce qu'il y a de nouvelles réalités maintenant. Oui, je peux imaginer beaucoup de situations diverses. Si on avait les points iroquois pour la nation iroquoise, est-ce qu'on va les exclure? Non. Je crois que Murray, puis Louis, Murray McCutcher, non affilié. J'ai été invité il y a longtemps à une communauté. C'était des scouts du Canada et j'étais responsable d'enfants. Et il y avait un processus qui était un processus au niveau local où j'étais interviewé. On a décidé si j'étais une personne appropriée qui pouvait s'occuper d'enfants. Donc peut-être qu'on peut en tirer une leçon. Oui, oui, quelque chose qui vient à l'esprit, ce n'est pas d'une manière explicite, mais exclure les contracteurs, par exemple, les sous-traitants. Il y a toute cette question des conflits qui se posent. Donc, j'ai envoyé à Gisela un lien avec des critères minimums pour les ALS. C'est assez flexible, hein, ces règles. Peut-être que Gisela peut les mettre à l'écran. Oui, on a parlé de conflits d'intérêts. Il y a un ensemble de règles au sujet des conflits d'intérêts. Je crois que, par exemple, dans le cas de Annalisa, qui n'est pas la seule, moi je suis pour représenter ISOC Québec et on soutient Point Québec, une association à but non lucratif. Et si il n'y a pas de personnes, du personnel, eh bien, ça peut être un problème. Il va y avoir automatiquement des conflits d'intérêts parce que on essaie de trouver des membres, mais ces membres vont venir de la communauté pour participer. Ils viennent d'associations à but non lucratif et j'espère qu'ils seront en mesure de venir nous soutenir à l'avenir. Donc, oui, c'était Louis qui s'est exprimé et je suis d'accord. Glenn. Oui, on fait de la sensibilisation à nos tables et je vais utiliser Alan. Oui. Donc, Louis, comment est-ce que nous allons mesurer cela? Voilà. Ils sont acceptés. Donc, les gens peuvent venir nous voir au stand et il faut clairement leur dire, ne pas les décevoir, leur dire ce qu'il en ressort. Donc, je crois que si quelqu'un a une idée de à qui parler, il faut vraiment pas se dire tout de suite « Ah non, cette personne ne peut pas être membre. » Il faut vraiment essayer d'être inclusif. Louis, moi je dirais que je travaille pour le gouvernement canadien depuis plus de 30 ans et nous avons des conflits d'intérêts, nous avons des règles sur les conflits d'intérêts. Nous avons des lignes de conduite. Les organisations à but non lucratif par rapport aux entreprises commerciales. Donc, moi je crois que les organisations à but non lucratif peuvent être des ALS et je ne pense pas qu'il y ait de conflit d'intérêts si on veut appliquer les mêmes règles pour les entreprises commerciales. Là, il faudra des lignes de conduite un petit peu différentes, écrites également différemment. Le personnel, oui, je m'appelle Louis et je suis le seul avec cet accent à la canne. Oui, un instant, je vais aller à Alan, donner la parole à Alan pendant que je réfléchis. Est-ce que je voulais dire Alan Greenberg? Donc, nous avons notre galaxie à l'écran. Oui, et voilà les règles. Non, je plaisantais. Si vous lisez les règles, Il n'y a pas de règle qui nous dit qu'on ne peut pas être un gouvernement, on ne peut pas être à but non lucratif. Croyez-moi, on a déjà débattu de tout cela il y a longtemps. Le monde est très intéressant parce que il y a des endroits du monde où on ne peut pas faire cela à moins d'être très proche du gouvernement. Il y a des endroits où on peut être une organisation à but lucratif et être quand même humaniste. Donc, si vous lisez les règles, nous avons des termes qui sont importants et que nous avons soulignés. Et ces règles qui s'appliquent. Donc, on n'a pas un contrôle sur les personnes qui sont des ALS, point à la ligne, et à moins que l'on change les règles, moi, je ne veux pas réinventer la roue et repartir à zéro dans ces discussions. C'est en rapport avec le règlement intérieur, avec les clauses du règlement intérieur et des textes statutaires. On peut avoir des règles différentes, c'est sûr, mais sur les personnes affiliées, là, on n'a pratiquement pas de règles à ce sujet. On n'en a pas encore. Mais essayons de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Oui, Garth, une nouvelle fois. Oui, on en a parlé hier, et c'est ce que j'avais oublié. Quel est le abus non lucratif? C'est une définition très différente selon notre point de vue. On l'applique à... Il y a les 501(c)(3) aux États-Unis. C'est une définition très étroite du statut à but non lucratif. Nous, on a eu un 501(c)(4) qui est un petit peu différent, définition un petit peu différente. Donc il y a de nombreuses définitions du but non lucratif pour les clubs, les associations, l'intérêt public. Donc ça dépend du code fiscal, des gens qui payent des impôts et qui n'en payent pas du tout. Donc il y a des définitions légales, juridiques, il y a le parrainage également. Est-ce que le parrainage va donner des droits à des impôts, à payer des impôts, ou est-ce que ça va être des donations, par exemple, de nos parrains qui vont être non imposables? Donc, Annalisa, ça dépend des régions géographiques, ça a un impact fort sur le statut juridique des associations à but non lucratif. Le 501(c)(3) ne peut pas être un registre aux États-Unis. Je m'en suis rendu compte. Donc, nous avons dû obtenir un autre statut juridique. C'est un débat intéressant. Et Sinaralo a l'option au niveau interne qui n'aura pas un impact sur le règlement intérieur. Le code fiscal par rapport à d'autres pays. Donc, je crois qu'il y a une solution qui peut être trouvable à ce niveau. Oui, merci. Joanne, oui, c'est... Oui. Oui. Joanne, au micro. Lorsque l'on prend en compte... Toute organisation va avoir des conflits. Si vous avez des règles de participation différentes des règles de décision, les décisions sont sur le vote, le droit de vote. Tous ces termes que je vois, dont on parle, si l'on lit toutes les règles, on va être totalement découragé et plus avoir envie de participer. Les communautés doivent participer. Le niveau de participation fait la différence sur l'influence. Donc, si vous avez un conflit d'intérêts, les personnes le divulguent. Et je sais qu'il y a des niveaux de divulgation, mais je crois qu'on doit encourager les personnes à participer tant que nous sachions d'où ils viennent, quel est leur point de vue. Et on ne peut pas leur dire « on aimerait que vous participiez si » et leur donner des conditions très strictes et toutes ces règles. Donc ne perdons pas de vue la participation importante au groupe. Donc, Dena, j'ai des commentaires également. Oui, oui, Dena, un commentaire. Annalisa, vous êtes une association à but non lucratif. Nous avons en effet une fondation à but non lucratif. C'est une 501c3, une fondation. Ça appartient au public. Aux États-Unis. Et donc, aux États-Unis, une 501c3 ne peut pas être un registre ICANN parce que c'est une organisation à but non lucratif. Personne ne le savait. Moi, ça fait 3 ans que j'ai passé du temps et d'argent à parler à des avocats, dont j'en suis à peu près sûr. Mais nous avons une organisation séparée, Point Inc. Incorporée, donc une société à responsabilité limitée. Et il y a une nouvelle structure en Californie uniquement, qui existe uniquement en Californie, dans l'État de Californie. C'est exactement ce que je fais, ça a quelques 6 mois d'existence. C'est une option possible, un autre statut légal, une autre forme d'organisation de société. Donc, la géographie compte, l'emplacement compte, les statuts fiscaux sont très différents, les codes fiscaux sont très différents de par le monde. Et même d'un État à l'autre des États-Unis. Oui, Dena, une nouvelle fois. Donc, dans votre organisation, il me semble que ça a trait aux demandes, aux dossiers de demande. Je crois que il faut avoir vos amis proches et vos ennemis encore plus proches, comme on dit. Mais je crois qu'on peut beaucoup apprendre entre nous et voir que le processus final sera basé sur un vote de vos membres. Oui. Oui, je ne sais pas exactement, peut-être que Alan peut m'aider à ce sujet, c'est un rôle nouveau pour moi. Seth me disait avant la réunion que la première fois qu'il a demandé de devenir ALS, il a été rejeté. Je crois que l'ALAC vote pour tous les ALS dans toutes les régions. C'est comme ça que ça se passe, Alan? Donc, il y a une soumission, un dossier de demande, une candidature. Ça se fait en ligne. Et le personnel peut rebondir là-dessus. La région fait une recommandation indiquant que, oui, c'est un ALS approprié ou pas. Ensuite, ALAC vote. Vote pour ou contre, avec ou à l'encontre de la région, et dans le cas dont on parlait il y a de cela quelques minutes, un ALS de rejeté, c'est parce qu'il ne répond pas aux critères qui sont sur l'écran un petit peu plus haut, et entre autres, vous devez être contrôlé par des utilisateurs. Si vous êtes contrôlé par une entreprise, là, il y a un problème. Vous n'êtes pas un ALS. Vous ne pouvez pas être un ALS. Les critères ne sont pas très rigoureux, mais ce sont des critères quand même. Et il faut s'assurer qu'ils soient respectés. Parce qu'il y a des associations qui essayent de devenir des ALS, des entreprises, et là, on ne l'accepte pas. Parfois, il faut interpréter les clauses, et c'est difficile, c'est une zone d'ombre qui existe. Oui, Glenn McKnight, question à Annalisa. Si vous ne rentriez pas dans cette catégorie, étant donné que vous êtes faux membre, je suis curieux. Est-ce que vous seriez accepté en tant que à but non lucratif, de groupes, des personnes et des entités à but non lucratif. Selon leur définition de ce groupe de travail, ils représentent au niveau opérationnel, c'est plus de l'opérationnel, c'est un aspect plus technique. Il y a pour les DNS, des bureaux d'enregistrement de domaines. Donc, je ne sais pas, c'est une question que je me posais. Oui. Oui, Annalisa, une nouvelle fois. C'est intéressant, Glenn, mais notre registre aux États-Unis, même si nous savons que Perry est un but non lucratif, ça c'était le passé. On n'avait pas le droit de se présenter en tant qu'abus non lucratif. Donc on ne peut pas, je ne pense pas que ça soit possible. La fondation Dot Green est donc une fondation à but non lucratif, mais toutes les associations à but non lucratif ont des missions d'intention, des déclarations d'intention pour obtenir le statut 501(c)(3). C'est très difficile, ça demande beaucoup d'avocats, de juristes, de travail. Et nous, on n'est pas sur les politiques d'Internet. On ne s'intéresse pas aux politiques d'Internet. Parler de TLD, parler de politique à l'ICANN. On est là pour les utilisateurs finaux de l'Internet à la base. C'est une autre mission. On veut donner des fondations humanitaires, environnementales, dans le monde. Donc, des bourses qui sont données dans le monde au niveau humanitaire et écologique. Donc, vous n'allez pas voir de fondations américaines qui auront pour but d'être au Naralo. Ce n'est pas possible au niveau juridique. Vous savez, c'est seulement pour les États-Unis. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays, mais pour nous, ça me semble impossible. Les règles des associations à but lucratif sont celles-là. Oui, merci, Garce Olivier Crépin-Leblond. Vous avez été en référence directe, je crois, à la question. Je ne sais pas si Alan veut s'exprimer plutôt que moi, peut-être. Oui, il faut être prudent lorsque l'on parle des différentes organisations. Le NPOC. Glenn parlait du NPOC. C'est un groupe non commercial des parties prenantes non commerciales du GNSO, donc Dot Green, étant une fondation, je suis à peu près sûr qu'il peut venir à NPOC et se joindre à NPOC. Oui, mais on parlerait notre statut fiscal aux États-Unis, parce qu'on parlerait de politique Internet, alors que ce n'est pas notre mission, ça ne rentre pas dans notre mission. C'est ça le problème. C'est un rapport avec le gouvernement américain, c'est un problème juridique américain. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si la Croix-Rouge peut être membre, vous pouvez bien être membre aussi, je ne sais pas. Je vous demande de vous pencher là-dessus, je crois que c'est une possibilité. NPOC, NCNG... groupe pour les registres, bureaux d'enregistrement opérationnel, ça fait partie du GNSO. On parle des problèmes de GTLD à ce groupe, ça peut vous intéresser, je crois, si vous avez des relations avec des GTLD at large, c'est plus large, c'est le cas de le dire. On peut commenter, faire des commentaires, faire des conseils, du consultatif sur le GTLD, mais aussi sur à peu près tout. Donc, je ne crois pas que ça vous empêche de faire partie d'un autre groupe. Et nous avons plusieurs groupes qui, à mon avis, pourraient... Il y a plusieurs personnes qui font partie de plusieurs groupes. On ne vote pas dans plus d'un groupe, mais on peut faire partie de plus d'un groupe. Donc, vous pourriez, je pense, jouer un rôle dans l'association de cette manière. Il y a des gens de Cisco, l'entreprise Cisco, qui sont au S5, comité consultatif. Cisco peut faire partie du groupe des entreprises, évidemment, du GNSO. Ce n'est pas un conflit d'intérêts. Ils sont clairement une entreprise commerciale. Donc, croyez-moi, vous pouvez avoir pied dans plusieurs groupes de l'ICANN pour de nombreuses raisons. Donc, étudiez la question et il y a peu d'interdictions. C'est seulement si vous faites des politiques, des lignes de conduite que vous édictez que là, il y a un problème. Olivier Crépin-Leblond... Un point que j'aimerais soulever, après avoir écouté Alan, Les besoins d'ALS doivent être une entité commerciale ou pas, structure at large. On ne peut pas être une organisation gouvernementale. Néanmoins, et ce n'est pas en rapport véritable à Naralo, je crois que il y a des parties du monde où on ne peut pas avoir une organisation en but non lucratif sans cadre juridique. Parfois, c'est carrément impossible d'avoir des fondations, de lancer une fondation, de faire une structure légale sans avoir d'accord du gouvernement. Donc, il faut que tout le monde puisse participer, les pays du monde entier puissent participer. Et il y a des problèmes parce que parfois les gouvernements ne donnent que très peu de flexibilité et demandent beaucoup d'autorisation pour créer une structure. Oui, c'est Garth une nouvelle fois. Dana et Darlene travaillent pour des programmes gouvernementaux. On sait ce qu'ils font. Et comment est-ce que nous allons réconcilier cela?
Thank you, Garth. It's Olivier.
Merci, Garth. C'est Olivier. C'est un peu comme appartenir à un club de sport, n'importe quel club, en fait. Il y a des organisations qui sont fondées par des programmes gouvernementaux. C'est peut-être un début, ou alors c'est peut-être aussi une activité constante. Mais ici, on devrait se concentrer sur quelle est la mission d'une organisation. Si c'est une organisation qui sert des utilisateurs Internet, qui travaille sur Internet, ils vont avoir des processus pour entendre les commentaires des utilisateurs. Le reste de ce sujet est un peu confus et je n'ai pas d'opinion. Alan, en fait, Olivier n'était pas avec nous à l'époque, mais on a beaucoup discuté si on pouvait faire partie du gouvernement ou pas. Et sauf que je ne le sache pas, on n'a pas de règles par rapport à appartenir au gouvernement ou pas. Pour la plupart, et je vais le lire, la seule objection est qu'on doit être constitué pour que la participation des utilisateurs Internet qui sont des citoyens d'un pays dans une région à laquelle l'ALS appartient vont être la plupart des opérations de l'ALS. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un gouvernement parce que les gouvernements vont contrôler le gouvernement et la gouvernance des utilisateurs Internet individuels. Donc on est clair là-dessus, mais on ne sait pas si on peut travailler pour le gouvernement ou recevoir des fonds du gouvernement. Et si on le faisait, il y a des régions qui pourraient disparaître. Je suis Garth. J'imagine que parfois, dans certaines régions au monde, on a des régions petites, des aborigines, des indigènes qui ne font pas de distinction entre le gouvernement et le reste. Par rapport à mon propre exemple que je voulais discuter, levez la main si vous savez ce qu'est le magazine 2600. Pardon. C'est un magazine de hackers. Et les gens écrivent des articles pour casser ou pour attaquer les autres. Donc peut-être vous pouvez trouver des informations, des bureaux d'enregistrement, et peut-être qu'on vous dit que la caisse de Walmart peut s'ouvrir de telle et telle façon. Les gens de la communauté technique traitent les sujets que les fabricants devraient traiter pour lorsqu'ils fabriquent des machines. Et je le lis à chaque fois qu'il est publié, tous les trimestres. Il y avait un article sur la protection de votre nom de domaine. Et c'était un des meilleurs articles. C'était une recette, un pas à pas, pour protéger son nom de domaine. Et je me suis dit, il faut que je trouve ce type. Et finalement, il était un technique pour un bureau d'enregistrement. Et j'ai parlé avec lui et je lui ai dit, t'es le genre de personne dont on a besoin d'un bureau d'enregistrement dans nos réunions. Donc c'est ce genre de gens qui viennent des bureaux d'enregistrement dont on a besoin. Je lui ai dit, on a besoin de t'avoir à nos réunions. Il m'a dit, bon, en fait, mais ma compagnie ne va pas m'envoyer parce que je ne suis pas le genre de personne qu'ils envoient aux réunions d'ICANN. Et je me disais, comment on peut le faire participer? Parce que ce qu'il fait est tellement important. Et ma question est, est-ce qu'on aurait des objections pour l'inclure en tant que membre non affilié ou pour qu'il crée un groupe de techniciens des bureaux d'enregistrement qui nous conseillent sur ce genre de sujet? Et je vous le propose pour qu'on le discute. Vous allez le dire beaucoup plus tôt dans la discussion. On aurait pu le faire plus court, dit Alan. Est-ce qu'on devrait se préoccuper parce qu'il y a des gens qui travaillent pour des compagnies qui vont les renvoyer s'ils disent quelque chose qu'ils ne doivent pas dire? Oui, bien sûr, et c'est à eux de se préoccuper de ce genre de problème. Il faut qu'on se préoccupe par des gens qui font semblant d'être honnêtes et en fait ne le sont pas. Mais à mon avis, on trouve plus de valeur que de risque. C'est plus utile que risqué. Et c'est le genre d'exemple qui montre ce que je veux dire. Vous avez la démonstration dans votre exemple. Et on avait un bureau d'enregistrement qui travaillait pour deux compagnies différentes en Californie. Et ils avaient les critères que l'on apprécie. Mais il y a des gens qui ont pensé qu'ils ne devaient pas appartenir à Naralo parce que son patron était tel et tel. En fait, ça n'importe plus. C'est l'histoire ancienne, mais ce devrait être des exemples pour l'avenir. Je recommande que l'on élimine la restriction pour les membres non affiliés des GARS. Annalisa qui dit, oui, je pense que c'était une bonne discussion parce qu'on a appris qu'il y a des critères qui paraissent très importants, mais qui, en fait, ne correspondent pas ou alors qui créent des problèmes. Et alors, l'exemple de GARS me montre qu'on devrait peut-être se centrer sur le consommateur Internet, sur ce qui est mieux pour le consommateur Internet, l'utilisateur. Et si quelqu'un pense aux intérêts des utilisateurs Internet, peut-être qu'on ne devrait pas regarder son habit. Et c'est à partir de là que je commencerai. Quel est l'intérêt de l'utilisateur Internet? Et puis voir la mission de Naralo. On devrait remettre en question pourquoi on est ici, à qui on rend service. On devrait être créé pour le bénéfice des utilisateurs. Et je pense qu'on a appris cela aujourd'hui. Les statuts fiscaux des gouvernements ne sont peut-être pas notre critère, mais on sait ce qu'on cherche, n'est-ce pas? Il s'agit de définir notre mission. Et je pense que cette conversation pourrait continuer dans l'avenir. Randy? Oui, je suis Randy. Je me demande... J'ai toujours un peu de doute et j'y réfléchis. Je pense que c'est un commentaire très intéressant que tu as fait parce que c'est le centre de ce qu'on est en train de discuter. Et je pense que si son patron lui permet de faire ce genre d'activité, il ne peut peut-être pas le dire dans le public si on ne le permet pas. On ne peut pas venir dire bonjour, je travaille pour tel et tel et je viens vous raconter ces vulnérabilités. Non, en fait, ça doit être un secret, on est tous vulnérables. Et son patron, bien sûr, n'apprécierait pas qu'il le publie, mais c'est un choix individuel. Et c'est un concept très intéressant. Mais je propose qu'on continue à travailler sur cette ligne et qu'on vote dessus et qu'on l'aborde formellement. Il a dit qu'il était Edgar, en fait, on savait qui il était et il était motivé parce qu'il avait été... Mais c'était, en fait, il avait marre de faire à chaque fois le processus pour résoudre ses problèmes pour les registrants qui ne comprenaient rien de protection de nom de domaine. Et donc, par exemple, les gens doivent prendre des cours et passer un examen pour conduire parce que c'est très dangereux. Et les noms de domaine sont aussi dangereux qu'une voiture. Et d'après ce qu'a dit Alan par rapport à son commentaire, je propose moi aussi de continuer à réfléchir sur ce problème, mais d'avancer avec l'ordre du jour parce qu'on va être en retard. On va alors passer. Oui? Eduardo, vas-y.
Je suis Eduardo.
Alors, est-ce qu'on va avoir une action à suivre pour cette décision poursuivre? Oui, bien sûr. Des gardes, Alan. Alan dit, je vais reprendre l'action que j'ai faite pendant très longtemps. Mais je pense que j'ai une idée de ce que ce groupe voudrait de ne pas avoir des restrictions. Parce qu'on maintient des restrictions et je n'ai pas d'argument pour élargir cette restriction. Donc, en fait, je vais rédiger un document qui montre des modifications pour le groupe pour qu'on les inclue. Alan Descartes a dit que ce serait une discussion très brève au début. Oui, je me trompe toujours, dit Alan. Garth Brown prend la parole. On passe au point numéro 5 de notre ordre du jour. C'est les questions urgentes, les sujets qui nous pressent. Vous avez des questions urgentes? Oui, Glenn. Je pense que l'article de Robert Hooke a été publié cette semaine est une question urgente qui nous involue tous parce qu'on nous appelle junior et corrompu. Et ce n'était pas très bon pour nous. Et la dernière fois qu'on a travaillé avec le comité, c'était la dernière fois on nous avait dit cela. Et le NOMCOM mettait en question la question de confidentialité. Il y avait plein de questions à traiter et cette année-ci, on a encore des problèmes. Donc, on a un comité de gouvernance qui travaille sur ce sujet. Mais c'est une question très sérieuse. On a des membres d'ALAC et du NOMCOM qui ne sont pas ici parce que leur gouvernement ne leur a pas donné de visa. Le gouvernement canadien ne leur a pas donné de visa, en fait. Et on a dit que c'était la faute de Syra, qui était l'hôte de cette réunion. Donc on a des membres, trois membres qui ne sont pas présents. On a trois membres d'ALAC qui ne vont pas avoir l'occasion, qui est très importante, d'avoir une voix à la table. Heidi va clarifier, Dicard, c'est Heidi qui prend la parole. C'est juste un petit commentaire là-dessus. Le département de voyage d'ICANN leur a contacté et ils avaient trouvé deux personnes qui ont demandé de l'aide, mais la troisième personne n'a pas présenté une candidature pour avoir un visa. Il ne l'a pas demandé. Il allait participer à distance. Alors, Dingard, je vais être sûr qu'on se centre sur un problème à la fois. Donc, pour ce qui est de la polémique du NOMCOM, Glenn a mentionné un aspect qui est la confidentialité du groupe. Je vais mentionner deux aspects de plus. Il y a des standards de discours ici, il y a des politiques à suivre. Et l'article que vous mentionnez est très loin d'être acceptable. Et je voudrais savoir ce que les membres d'ALAC ont à dire, particulièrement Olivier. Merci, Garth. Dans une situation telle que celle-ci, j'ai des sentiments personnels. Je ne peux pas parler au nom d'ALAC parce qu'on ne l'a pas discuté en tant que comité. Mais je dirais qu'il ne s'agit que d'une personne qui n'est pas à l'aise, qui se sent mal à l'aise. Et ils essaient de détruire le processus du NOMCOM. On espère atteindre la prochaine étape. Et je ne pense pas qu'on devrait perdre du temps là-dessus. Ce n'est pas la peine de passer du temps dessus. Bien, Glenn, je voulais que tu répondes à la question sur si tu crois ou pas qu'il s'agit d'une situation qui s'oppose au travail de NOMCOM et si cette situation va continuer d'exister ou pas au sein du NOMCOM. Comme Eduardo pourrait bien vous dire, on a des rôles de confidentialité qui font que ce soit très difficile pour moi de m'exprimer dessus. Je dirais simplement que comme représentant de NOMCOM pour Naralo, je prends mon poste au sérieux et je pense qu'on devrait comprendre que, comme on l'a dit, deux personnes et demie ne seront pas présentes. Mais cette lettre montrait clairement que les individus qui étaient présents dans les réunions d'Adlarge et dans le NOMCOM ne le faisaient que pour voyager. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais là. Et je suis là tous les jours. Normalement, vous voyez, je cours partout avec mes appareils vidéo, j'essaie de vous prendre en interview pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez. Donc, je pense que cela va disparaître à un moment donné. Mais j'ai marre de ces petites accusations dans les réunions d'ICANN. Je vous montrerai que je ne suis pas un débutant. Peut-être que c'était bien, je ne sais pas. Peut-être que c'était une flatterie, mais corrompu, c'est une offense, ça c'est sûr. Et les gens qui travaillent sur les NOMCOM et les gens qui ont travaillé au NOMCOM l'année dernière ont beaucoup travaillé. Et pour être honnête, je ne pense pas que je voudrais passer par ce processus encore une fois. Bien. Alan va parler. Je ne suis pas d'accord avec Olivier et un peu en désaccord aussi avec Glenn. Peut-être que cette lettre a été dirigée à ce NOMCOM et on ne devrait pas le prendre ou le comprendre à niveau personnel. Il y a toujours un peu de vérité en ce qu'on dit, bien sûr. Je ne veux pas accuser Glenn de parler de voyage gratuit. Je ne t'accuse pas. J'ai été à ICANN pendant 6 ou 7 années déjà. Donc, on a des gens qui ont représenté ALAC, NOMCOM, pour ne pas mentionner les autres groupes, qui l'ont fait pour voyager, bien sûr. Et ils avaient été choisis par des amis pour avoir encore une année ou deux à ICANN. Faites-moi confiance, vous les connaissez peut-être pas au niveau personnel, mais c'était le cas. Est-ce qu'il y a des gens qui vendent leur vote? Il me semble que non. Est-ce qu'il y a des gens qui soutiennent des personnes pour des raisons personnelles, même si ces personnes ne sont pas le meilleur candidat pour un poste? C'est un peu subjectif, mais oui, il est probable. Et en définitive, nous, en tant qu'ALAC et Naralo, on va choisir des représentants et ça n'applique pas à vous, mais on doit faire attention à ce qu'on choisit des personnes qui puissent faire ce travail. Et c'est le fait de savoir reconnaître des personnes qui vont être bonnes pour ALAC, pour le directoire, pour la GNSO, la CCNSO, pour les autres comités consultatifs. Et si vous regardez l'historique du NOMCOM, particulièrement pour certains groupes, comme par exemple la LAC et la GNSO, ils se sont pas très bien sortis lorsqu'ils ont choisi des candidats. Et cela, en fait, est un préjudice pour leur processus. Ça porte atteinte à leur processus. Le NOMCOM ne fonctionne pas peut-être très bien, mais les deux directeurs qui vont venir pourrait être bien meilleur, en fait. Mais on a eu des problèmes. et on ne devrait pas faire semblant de ne pas les avoir eus. Et Alak a été coupable de certains de ces problèmes. Et je dis pas Naralo, Alak. Merci, Dana. C'est Dana qui prend la parole. Par rapport aux commentaires de Glenn, comme amateur ou débutant, je ne sais pas, il faudrait penser, est-ce que vos groupes ont des spécialistes ou des conseillers juridiques? Tout le monde a de très bonnes idées ici, mais ce n'est pas pareil d'être ici que de s'adresser formellement à quelqu'un. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il avait cette conversation et on parlait de sensibilisation et de se faire connaître. C'est une possibilité peut-être de penser à engager un cabinet de relations publiques. Je suis Mary McCutcher. Pour les membres non affiliés, je ne sais pas si c'est à moi de faire cette déclaration, mais je vais la faire de toute façon. En tant que personne de l'intérieur, c'est un peu neuf pour moi, mais je sens que ICANN a plein de problèmes avec Internet. Et on m'a rappelé des commentaires des personnes qui ont écrit la Constitution des États-Unis. Et c'est un peu pareil. On dit ici qu'ICANN a une discussion de Constitution. Et la Constitution est ce qu'elle est, mais ce qu'importe est comment on l'exécute. Et on devrait le faire de bonne foi pour qu'elle soit une bonne constitution. Si cela change, n'importe quel document pourrait échouer. Il s'agit des personnes qui l'exécutent. C'est Olivier qui parle. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'Alan Greenberg a dit tout à l'heure. J'ai fait partie de Nomcom pendant un an et je voudrais parler de son commentaire par rapport à ce que les personnes veulent appartenir au Nomcom pour voyager. Je ne pense pas que l'on pourrait le considérer comme la norme. Le Nomcom travaille beaucoup. J'ai passé un an, comme j'ai dit, au Nomcom. Et pour moi, avant de participer au Nomcom, j'avais aussi les mêmes soupçons par rapport au travail du Nomcom. Je me disais, comment est-ce que ça leur prend autant de jours de prendre des décisions? Ils doivent choisir, ils regardent les résumés et puis les CV, ils doivent choisir, c'est tout. Mais si vous avez 100 CV et vous avez des postes à remplir, et vous avez beaucoup de personnes qui viennent de l'intérieur et qui se proposent comme candidats, et on a très peu de personnes qui viennent de l'extérieur, ce qui est très malheureux. En même temps, lorsqu'on a fait une présélection et qu'on a 10 personnes, vous voyez qu'on a des personnes exceptionnelles qui participent. On le voit à partir de leur CV, et c'est très difficile de choisir. Et donc, si vous vous servez du Nomcom en tant que moyen pour voyager, vous allez passer beaucoup de temps dans une salle à travailler. Donc, ce serait peut-être mieux même de rester chez eux et de rester chez eux avec leur argent et puis dépenser cet argent pour prendre des vacances réelles. Mais c'est peut-être la minorité des personnes. Par rapport aux personnes à large qui vont au Nomcom, on a 5 personnes, une de chaque région, qui va aller. Et lorsqu'on voit la quantité de candidats qui veulent appartenir au Nomcom, parfois, on n'a pas autant de choix. Et je pense que c'est le même problème pour tous les regroupements et pour toutes les parties d'ICANN. Lorsque vous participez du Nomcom, en quelque sorte, vous vous éloignez des réunions d'ICANN parce que vous allez participer à d'autres réunions qui n'appartiennent pas à cette tasse de thé qu'est ICANN. Il faut regarder ICANN dès l'extérieur, dans son ensemble. Donc pour certaines personnes, ils sont trop engagés dans la communauté, ils appartiennent à des groupes de travail, à des commissions. Ils ne parviennent pas à à le regarder depuis l'extérieur. Il y a aussi des restrictions par rapport aux postes auxquels ils peuvent travailler l'année suivante après avoir appartenu à un homme-com. Par rapport à la façon dont le homme-com même travaille et comment on sélectionne des amis, etc., il me semble qu'il est impossible de le faire. En fait, il y a des votes de 19 ou 20 personnes. Il y a deux personnes qui ne votent pas, mais je pense que c'est environ 20 personnes qui votent. Donc, pouvoir convaincre 3 personnes pour voter un ami, c'est une chose, mais c'est complètement différent de convaincre la majorité des personnes. Et il faut savoir que chaque personne pense de façon différente. Donc, si vous avez des doutes sérieux par rapport à un candidat, ce candidat ne va pas appartenir à la présélection. Si le nombre comme est divisé en 2, on a 50-50, alors ce candidat ne va pas être voté parce qu'on a trop de questions par rapport à cette personne. Donc, on devrait convaincre tout le monde, tous les membres du comité, au moins la super majorité, je ne sais pas comment vous l'appelez, Alan, la GNSO a des termes avec des définitions pour chacune de ces mesures et de chacun de ces aspects. Mais si quelqu'un fait son travail et vient vous dire, et vous dit, juste, je pense que l'une de ces personnes est un ami à vous et vous l'avez choisi pour cela, je ne me sens pas à l'aise. Et c'est ce qui s'est passé lors des discussions qu'on a maintenues lorsque j'étais membre d'une homme-com. Moi, je crois complètement au NOMCOM et il me semble très injuste de dire ce que Rob Hall a dit. Garth dit, Olivier, tu peux pas dire CV, en fait. On dit curriculum vitae. Mais tu as raté une discussion qu'on a maintenue tout à l'heure par rapport aux acronymes pour les nouveaux membres. C'est une blague. C'est Alan qui parle. Olivier a dit qu'il n'était pas d'accord avec moi et puis il a dit plein de choses avec lesquelles je suis d'accord. Je ne parlais pas des problèmes du passé qui étaient valables pour la majorité des personnes. J'ai dit que c'était parfois le cas et qu'il fallait le considérer. Personne n'a passé la liste et n'a été voté parce qu'il était l'ami de quelqu'un. C'est-à-dire... J'aurais des exemples particuliers, mais ce n'est pas le cas. En fait, ce que je voulais dire est qu'on ne devrait pas discuter la déclaration de Rob, qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais il y a certains aspects qui sont importants et on doit s'assurer que ça ne se répète pas. Bien, donc, Olivier. Merci, Garth. J'ai quelque chose d'autre à dire par rapport à l'échec du NOMCOM pour nommer des personnes. Bien sûr, c'est arrivé parfois, et je suis sûre que ça va leur arriver encore une fois. C'est un échec du NOMCOM, mais ce n'est pas un échec du processus de sélection du NOMCOM, c'est un échec du processus de sensibilisation. Lorsqu'on a 4 personnes, et il faut qu'on nomme 3 sur les 4 personnes, parce qu'on a 3 postes à remplir, et c'est le cas parfois pour certaines positions et certains postes. Et parfois aussi, bon, on n'a pas vraiment le choix. Et ce qui est intéressant est que sur 100 candidatures, on va trouver 10 ou 15 qui sont excellentes, mais peut-être qu'elles ne sont pas toutes convenables pour le poste qu'on est en train d'essayer de remplir. Et par rapport à l'AC, il y a des personnes qui ne veulent pas appartenir à l'AC. C'est des personnes qui veulent accéder au directoire, c'est tout. Peut-être qu'on a un candidat excellent et qu'on le choisit, qu'il veut être dans le directoire et on lui demande d'appartenir à ALAC et dit qu'il ne le veut pas. Donc, c'est une question de trouver des gens qui voudraient appartenir à ALAC. Et c'est ça l'échec de NOMCOM dans cet aspect. Avant de passer à l'Anti Garth, je suis préoccupée pas tellement... par la réalité des processus, mais par la perception que cette polémique fait public par rapport à la façon dont on sélectionne les membres du directoire. Bien sûr, il y a des personnes qui vont vouloir voyager, ou il y a des personnes qui veulent vouloir l'organisation, et ce serait mieux si ces personnes quittaient, s'ils veulent quitter. Mais on ne peut pas remettre en question à quel est le processus de sélection. Wow. On ne sait pas qui c'est qui parle. On pourrait bien sûr parler des documents qu'on a passés à Alain pour faire des recommandations par rapport aux points qui devraient être améliorés. Je pense qu'en ce moment, un homme comme est motivé pour régler ces problèmes. On a envoyé un sondage sur le comité de gouvernance du directoire et on va se réunir avec Bruce Tompkins cette semaine et on va discuter avec lui ce qu'on a observé. On a beaucoup observé, je vous assure. On aura un homme comme qui sera mieux. Je pense que les personnes sont alertes en ce moment, elles font attention. On a des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Il y a 3 personnes qui nous contrôlent, qui nous surveillent et qui pensent en fait si on peut avoir quelqu'un de mieux à l'AC, par exemple, on a trouvé quelqu'un qui était un diplomate. Donc on a des personnes qui sont complètement différentes de ce qu'on avait. Vanda, par exemple, je l'adore, mais c'est difficile qu'elle se concentre. Et pour parler de Rob Hall, en fait, il prenait nos énergies. C'était pas... Il travaillait là-bas et il saisissait nos énergies. C'est un bon travail, mais ce n'était pas de bon résultat qu'on a eu. Donc pour répondre à Alan, aux modifications et à ce qu'il a dit, je veux que vous sachiez ce qui se passe. Et il me semble que le processus est interrompu en quelque sorte et qu'on devra l'améliorer. Bien, Louis, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, je vais te demander à chaque fois si tu as quelque chose à dire. Je veux que tu parles. C'est Garde qui parle. Hein? Donc, avant de passer au sujet suivant, est-ce que vous avez d'autres commentaires? Est-ce que vous avez d'autres questions urgentes avant de passer au point suivant? On doit se presser parce qu'on aura un autre groupe qui va entrer dans cette salle. Alors, c'est le bon moment et sinon, vous avez raté l'occasion. Bien, on va passer à la discussion du sommet, alors. Et le sommet d'At-Large de Mexico City était ma première réunion d'At-Large. J'ai connu de très bonnes personnes à travers ce sommet et j'ai beaucoup appris lors de ce sommet et ça m'a engagé, ça m'a voulu faire participer. Donc à mon avis ce sommet est très important. On dit que ça pourrait être en 2014. Je demande au groupe et au personnel si on sait où ce sommet va se faire. On a une perspective. Je suis Heidi. J'ai entendu dire que ça pourrait être en 2014, c'est-à-dire que la communauté at-large va devoir présenter une demande pour avoir un sommet dans cette année fiscale. Donc on ne sait pas quelle est la région ou le moment de l'année où ça va se faire, dit Garth. On n'a pas de réunion désignée. Heidi dit encore le choix serait à faire en Asie, je crois. Bien, dit Garth, peut-être que quelqu'un ici pourrait illuminer ce groupe par rapport à ce qu'est ce sommet. Je cherche des volontaires. Louis, non? Mais tu lèves la main à chaque fois? Tu montres qui? Je pensais que les membres du staff, dit Louis, devraient pouvoir le dire. Si personne ne va répondre, le personnel devrait peut-être nous expliquer.
Oui, Heidi au micro, nous allons mettre le site web. En 2009, il y a notre premier sommet et tous les représentants ELS se sont réunis, tous les RALOS, Assemblée Générale. On a eu 90 à 95 structures à tâches qui se sont réunies à Mexico City, à la ville de Mexico. il y a des groupes de travail, 5 ou 6 groupes de travail qui ont parlé de différents thèmes. Ils avaient été sélectionnés par la communauté at large. Il y avait un programme ICANN de base pour représenter ICANN pour les personnes qui le connaissaient mal. Il y a eu des membres du personnel plurilingues qui sont venus sur place. Il y a une déclaration du sommet qui a été approuvée. Et nous pouvons ajouter cela également. Et vraiment, ça a lancé le travail des communautés. Et je crois que beaucoup de personnes, en effet, nous ont dit que le sommet de Mexico a redoublé l'enthousiasme, renouvelé l'enthousiasme des participants. Oui, moi, je ris parce que on est sur le site web ALAC et on a du mal à trouver le sommet. Donc, ce site web va bientôt être totalement remplacé. Il y a un processus pour ce faire et vous êtes invité à prendre part au travail. Donc, combien d'entre vous étaient au sommet at large? À Mexico. Et est-ce que certains d'entre vous ont permis aux ALS de venir sur place ou est-ce que vous avez recruté sur place? Il y a beaucoup de ALS qui sont venus avant Mexico et qui n'ont pas été beaucoup impliqués. Et ensuite, les ALS, une fois qu'ils sont venus à Mexico, ont été vraiment enthousiastes et se sont mis à travailler beaucoup plus. Et ça a donc lancé une participation plus large des ALS. Moi, j'y étais, donc. Et j'ai noté cela. Avoir tous ces thèmes de traiter, tout le monde était prêt, préparé, avec des présentations, des documents. Et on a parlé de visu durant ce sommet. On a parlé des différentes lignes stratégiques que nous avions et ça a lancé vraiment le travail de l'ALAC jusqu'à aujourd'hui, l'amélioration de l'At Large. Donc on a eu d'excellentes stratégies qui commencent à porter leurs fruits et à mettre mises en œuvre. Donc voilà la page du sommet. Je vous donne la parole, Garth. Oui, Olivier, vous l'avez dit très clairement. C'était pour moi un baptême du feu, un petit peu. C'était un travail, groupe de travail, dans lequel je me suis retrouvé. J'étais le seul véritable anglophone de langue natale anglaise. Ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur le processus de travail international. Ça a été une excellente expérience et en fait, ça m'a laissé avec un point de vue tout à fait positif de l'avenir, alors que j'avais une vision très négative de l'ICANN avant. Eduardo? Oui, j'aimerais également dire que pour moi, même si je travaille à la Fondation Naralo, ça a vraiment ouvert mon esprit également, m'a ouvert les yeux sur ce que était l'ICANN, sur ce que nous faisions. Donc vraiment, une bonne motivation pour moi. Louis? Oui, Louis, au micro. J'ai pensé que lorsque je suis parti à Mexico, que nous voyions pour la première fois les résultats de tout le travail qui avait été effectué en 2007, en 2008, et tout le travail qui était fait par notre chapitre, on voyait les résultats de ce travail. C'était vraiment donc tout à fait positif. Heidi? Oui, merci Garth. Quand je vois toutes les réunions qui se sont tenues, c'est un petit peu comme une réunion ICANN, c'est fou. Regardez un petit peu toutes ces réunions qui se sont tenues, Assemblée Générale, groupe de travail à Mexico, il y a eu des groupes travaillant pendant 5 jours, d'une manière très intense, du soir au matin. C'est impressionnant et ça se refera, si on approuve, en 2014, un nouveau sommet de ce type. Donc, gardons cela à l'esprit. Et nous devons soumettre un budget, demande de budget. Et Darlene n'est pas là, mais nous allons donc passer au point 7 et lever la séance. Donc, à la suite des programmes GTLD, où allons-nous? Donc, l'ICANN va étendre sa présence sur l'Internet avec de nouveaux GTLD. Ça va étendre notre représentation. Et c'est ça ce qu'on doit faire, selon moi, essayer de compter là-dessus. Sinon, oui, Peter. Oui, j'ai participé. Oui, excusez-moi, c'est Peter. C'était une présentation très impressionnante que j'ai vue. Des trois problèmes, des trois R, on les a appelés. Il y avait toutes les parties prenantes de représenter et oui, l'autre point, c'est que cette Académie ICANN, l'Académie ICANN est quelque chose d'important. L'idée que cette Académie ICANN pouvait produire des modules de formation qui pourraient être utilisés dans des cours d'université pour toute personne intéressée, des modules courts à incorporer dans les relations internationales, les études de relations internationales, études informatiques. Donc, cela m'a paru une excellente idée de sensibilisation. Oui, c'était Peter Knight qui s'exprimait. Si personne n'ose prendre la parole, je vais lever la séance et vous remercier de votre participation. Excellent. Très bien.